Voilà, mesdames et messieurs, merci. Donc, bon, on est à l'heure, c'est bien, 6 heures. On a une heure ensemble. Et puis, je vous laisserai la parole tout à l'heure pour si vous avez des questions plus directes que les miennes à poser à Bruno Dive. Et puis, je vous laisserai ensuite un petit peu avec lui pour ceux qui souhaiteraient s'entretenir en particulier ou bien lui faire signer ce nouveau livre, donc La Métamorphose de Sarkozy aux éditions Jacob Duvernet. Donc, livre paru évidemment opportunément en ce début de campagne électorale. D'ailleurs, je crois que Bruno a écrit ce livre alors qu'on ne savait pas encore, si Nicolas Sarkozy se représenterait aux élections présidentielles. Le suspense
il y avait
n'était pas.
Pas d'inquiétude quand même.
Ouais, le suspense n'était pas immense, ouais. Mais enfin, il y avait tout de même évidemment un petit doute, surtout considérant les difficultés dans les sondages et l'atmosphère politique. Alors, Bruno Dive, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc est éditorialiste à Sud-Ouest. Il intervient également dans des émissions politiques, notamment à la télévision. Ce n'est pas son premier livre sur Nicolas Sarkozy, puisqu'il y a 3 ans, il avait publié un ouvrage chez le même éditeur consacré au voyage de Nicolas Sarkozy. C'était en 2008, et c'était donc un peu plus d'un an après son élection. Et il y avait déjà beaucoup de choses à dire sur ses déplacements, puisqu'à l'époque, le président de la République française avait déjà accompli une foule de voyages à l'étranger dont nous allons sans doute reparler. Par ailleurs, Bruno donc, est l'auteur de plusieurs ouvrages politiques, notamment le dernier, qui est toujours l'avant-dernier, donc, qui est toujours disponible, et qui est consacré à Jacques Chirac. Donc, le dernier Chirac, qui est un récit, en fait, un récit des années post-Élysée de Jacques Chirac, sur fond, bien sûr, de procès sur les emplois fictifs, mais également donc, la nouvelle vie de Jacques Chirac et sa nouvelle vie avec les Français, puisque après son élection, après son départ de l'Élysée, Jacques Chirac avait connu une sorte de lune de miel avec les Français. En revanche, pas avec Nicolas Sarkozy, puisqu'on a tous en mémoire la dernière sortie publique de Jacques Chirac en Corrèze, disant dans un grand rire qu'il voterait probablement pour François Hollande. Je cite également les deux ouvrages précédents de Bruno. Je ne suis pas sûr qu'ils soient encore tous disponibles. Les amis de l'Hôtel de Ville, un livre qui date déjà d'une dizaine d'années, donc oui, consacré, donc avec, coécrit avec notre confrère Guillaume Tabar, et puis un livre sur les premiers ministres qui s'appelait La Malédiction Matignon, donc sur la malédiction entre guillemets des premiers ministres qui avaient du mal à se projeter sur la plus haute marche de l'Élysée après avoir exercé ce métier de chien. Voilà. Alors, la métamorphose Sarkozy, je crois que Bruno, peut-être qu'une explication sur ce titre, parce que Nicolas Sarkozy, que l'on voit sur la couverture il y a 5 ans, et puis aujourd'hui, dans son habit de président, là, évidemment, on aperçoit un personnage qui a mûri, manifestement, dont le visage est un petit peu plus buriné. Mais évidemment, cette métamorphose n'est pas que physique. Elle est même peut-être pas surtout physique. C'est une métamorphose assez considérable qui est morale, qui est mentale, qui est politique. Alors qu'est-ce qu'il faudrait souligner en premier dans la métamorphose de Nicolas Sarkozy, Bruno?
Bon, d'abord bonsoir et puis merci d'être venu, d'avoir grimpé 3 étages par la chaleur pour venir parler de Nicolas Sarkozy et de sa métamorphose. En effet. Bon, la couverture dont parlait Christophe, c'est une illustration, bien sûr, qu'on a choisie après avoir écrit le livre. On a d'ailleurs entre nous un tout petit peu triché, ça commence bien, parce que le Sarkozy qu'on voit jeune date de 1995, on a un petit peu outré le trait, mais il est vrai qu'il y a quelque chose de frappant dans son changement physique en 5 années. On le voit plus marqué, plus grave aussi, parfois peut-être, mais ça je crois que l'impression est vite corrigée, parfois comme un peu désabusé. C'est donc une illustration. Il est évident que le pouvoir suprême, surtout, change les hommes et a changé tous les présidents successifs de la Ve République. C'est une évidence de le dire. Mais je pense qu'elle a encore plus changé Nicolas Sarkozy, en tout cas que Nicolas Sarkozy a plus changé à l'épreuve du pouvoir, même si on retrouve, maintenant qu'il est à nouveau en campagne électorale, qu'il est redevenu candidat, même si on retrouve un petit peu le côté touche-à-tout ou un peu gamin des débuts, mais même en comparant les deux campagnes, on voit bien que le Nicolas Sarkozy de 2012 n'est pas celui de 2007. Alors qu'est-ce qui a changé chez lui? On pourra y revenir. Il y a des changements personnels, beaucoup de changements dans sa vie personnelle, changement de femme. C'est quelque chose qui n'est pas anodin parce que ça a beaucoup compté. Son ancienne femme a eu beaucoup d'influence et le divorce, enfin, il a eu une vie très... il a eu des premiers mois, une campagne 2007 et des premiers mois à l'Élysée très difficiles sur le plan personnel. Qui ont sans doute joué dans son comportement des premiers mois. Et ensuite, il y a eu ce divorce, puis ce remariage, tout ça très rapidement, ce qui a pu choquer une partie des Français. Enfin, et c'était la première, on l'a oublié maintenant, mais c'est la première fois qu'on voyait ça chez un président de la République. Bon, ça, c'est le changement personnel. Après, donc, le changement du comportement. Il a vite compris que il pouvait pas être le copain ou le grand frère ou le manager qui houspillait un peu les Français parce qu'il voulait réformer le pays, qu'il fallait non seulement qu'il gouverne la France, mais aussi qu'il l'incarne, parce que c'est ce qu'attendent les Français d'un président de la République, c'est qu'il montre la route, mais aussi qu'il incarne le pays et qu'il soit digne de la fonction. Donc il a eu un comportement plutôt surprenant, je crois que tout le monde en convient, pendant les premiers mois. Il a vu que ça heurtait beaucoup de monde et il a essayé aussi de corriger ça. Et puis il y a eu tous les changements politiques autour de lui, changement de sa part, changement de politique d'abord sur de nombreux points. On pourra y revenir hein, si vous voulez. Il a passé quand même. Il y a des réformes qui sont restées, mais il y a des réformes auxquelles il a renoncé. Et il y a même des réformes qu'il a défaites. Y compris la plus emblématique qui est le fameux bouclier fiscal. Métamorphose, changement aussi dans la politique étrangère. Là, c'est même une révolution à 180 degrés. Il voulait être le président des droits de l'homme. Il est revenu à une politique plus réaliste, très vite. D'ailleurs, c'est le premier changement, une réelle politique, avant de revenir à une politique, on l'a vu en Libye, une politique des droits de l'homme. Changement par rapport à l'Allemagne. Et puis changement aussi tout simplement dans l'entourage, dans la composition du gouvernement. Quand on regarde autour de lui, l'Élysée de 2012 n'est plus du tout le même que celui de 2007, à trois exceptions près, je crois. Ce ne sont plus les mêmes conseillers. C'est plus la même femme, donc non plus. Il n'y a plus que Nicolas Sarkozy et trois conseillers et quelques secrétaires qui sont restés. Donc en 5 ans, tout a changé. À l'Élysée, tout a changé aussi au gouvernement. Quand on regarde la photo du gouvernement, beaucoup de ministres des débuts, ceux qui incarnaient l'ouverture, la diversité, comme on dit, ne sont plus là. On a retrouvé des figures plus classiques, y compris celles qu'on connaît bien ici d'Alain Juppé. Donc tous les ministres ont changé. Soit ils ont changé de place, soit ils ont changé ils ont carrément changé.
Le seul qui reste,
là aussi, c'est François Fillon, inoxydable, inamovible. Et là encore, Nicolas Sarkozy n'a rien fait comme les autres. Tous les présidents ont eu au moins deux premiers ministres pendant leur mandat, qui a fortiori duré 7 ans. Lui, en 5 ans, a gardé toujours le même. Voilà, ce sont quelques changements que j'ai essayé de traiter en divers chapitres thématiques.
On va y revenir un petit peu en détail. Le livre s'ouvre sur une confidence de Pierre Mazeaud qui voit arriver ce Nicolas Sarkozy à l'Élysée, alors juste après son élection. Alors Pierre Mazeaud évidemment est un vieux routier, un vieux grognard du gaullisme, chiracien, mais qui a vu passer des présidents et des premiers ministres et il regarde Sarkozy et alors Bruno rapporte qu'il voudrait bien lui dire que la conquête du pouvoir c'est plus facile que l'exercice du pouvoir. Et que Nicolas Sarkozy se prépare, enfin, il le confie à ses amis, se prépare vraiment des jours difficiles, alors qu'il arrive évidemment dans un enthousiasme considérable. Enthousiasme quand même, je crois, qui est largement tempéré par le fait que, on l'a cité tout à l'heure, la Cécilia Sarkozy qui l'a accompagnée dans sa conquête du pouvoir n'est pas là le jour où il faudrait qu'elle soit là, c'est-à-dire le jour de la victoire. Alors ça, c'est quelque chose qu'on l'a évidemment un peu dit, mais il y a beaucoup beaucoup de détails finalement sur cette affaire qui sans doute ont compté beaucoup dans le dans ce démarrage à la fois flamboyant mais aussi un peu raté de Sarkozy.
Du nouveau, ouais, je crois qu'on peut dire que, forçant un peu le trait, bien sûr, que si Nicolas Sarkozy est battu dans un mois, ce qui n'est pas du tout certain, enfin on pourra en reparler, mais ce qui n'est pas du tout certain, mais ce qui est aujourd'hui quand même reste l'hypothèse la plus probable, on peut dire qu'il aura été battu en réécrivant l'histoire à rebours. On peut dire qu'il aura été battu dès le soir de son élection, d'une manière. C'est cette affaire cette fameuse nuit du Fouquet's, bon, qui est en soi assez anodine. On en fait tout un. Ça me gêne un peu parce qu'on en fait beaucoup. On en a fait beaucoup, on reparle de ça. Mais ce qui est frappant dans cette affaire, c'est que sur le moment, ça a un peu surpris. Tout le monde, bon, il va au Fouquet's, bon, les autres
d'ailleurs,
présidents
n'avaient pas fait comme ça. Je crois qu'au Fouquet's, il y a une table qui est réservée au président de la République, non ? La table 43, c'est ce que j'ai lu quelque part. Et que Mitterrand, d'ailleurs, allait assez souvent lui-même au Fouquet's sans que personne s'en soit ému. Mais évidemment, il y avait la portée symbolique du premier soir.
Il y a la portée, symbolique. Enfin, c'est pas au Fouquet's, en fait, c'est au restaurant du Fouquet's, c'est à côté, c'est dans les salons de l'hôtel, parce qu'il... Il ne fait pas qu'il passe là sa soirée, il y dort aussi, ce qui est un peu surprenant. Mais ce qui s'explique aussi, parce que quand on sait que Nicolas Sarkozy était en période de divorce, il n'avait plus de logement, en fait, on a appris après, il était hébergé chez des amis. Bon, il y a tout un tas d'explications possibles. Cette fameuse nuit du Fouquet's, et puis la fameuse croisière sur le yacht de Vincent Bolloré, qui s'ensuit, qui se décide d'ailleurs à la soirée du Fouquet's, et que Nicolas Sarkozy décide de faire dans l'espoir de reconquérir Cécilia, qui finit par arriver le soir très tard au Fouquet's, après que Johnny Hallyday, Laetitia et quelques autres les suppliaient de venir. Donc ces deux éléments, entre guillemets, fondateurs du quinquennat, aujourd'hui seraient oubliés sans doute, ou en tout cas on n'en parlerait pas autant, si rétrospectivement il n'avait pas pris une valeur symbolique. Il n'était pas devenu une sorte d'illustration de la présidence et du rapport que Nicolas Sarkozy a affiché avec l'argent. Alors, c'est la première loi qui est votée à l'été 2007, le paquet fiscal, avec notamment le bouclier fiscal qui était dans son programme. Hein, on ne peut pas lui reprocher de l'avoir fait voter, ça faisait partie de son programme. Mais... très vite sont venus s'accoler à lui l'image du président des riches, renforcée par l'histoire du premier cercle, vous savez, le cercle des donateurs, des riches, des plus riches donateurs de l'UMP, tout ce qu'il y a de plus légal, mais qui a pu choquer dans une partie de la population et qu'on a découvert après, quand il y a eu l'affaire Woerth-Bettencourt, dont on connaît ici... à Bordeaux, au palais de justice, de nouveaux développements en ce moment. Donc, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que le Fouquet's, le yacht, on en parle très peu on en parle un petit peu sur le moment, puis c'est oublié, on passe à autre chose. D'ailleurs, avec Nicolas Sarkozy, on oublie, les événements s'enchaînent très vite, on passe très vite d'un événement à l'autre. Et ça revient, en fait, un an après, deux ans après, comme une espèce de remue qui remonte à la surface, parce que c'est encore une fois une forme d'illustration du début du quinquennat. Mais pour revenir à ce que tu disais, ce que je disais au début, le quinquennat est en effet très marqué, je crois qu'il faut le savoir et le comprendre, pas forcément pour excuser Nicolas Sarkozy, mais pour le comprendre, très marqué par ses problèmes personnels. Cécilia a une influence énorme et Nicolas Sarkozy lui laisse cette influence énorme dans l'espoir toujours de la reconquérir. Donc elle a une influence sur les nominations, nominations de certains ministres, Rachida Dati, Michel Alliot-Marie ou à contrario Brice Hortefeux qui est non pas écarté mais qui se retrouve dans un ministère marginal, nomination dans les conseillers, elle fait le tri dans les fidèles, il y a ceux qui lui sont restés fidèles à elle, qui ont le droit de venir au Fouquet's, à la cérémonie d'intronisation à l'Élysée et puis qui auront un bureau à l'Élysée, puis les autres qui sont écartés. Il faut savoir que certains des plus fidèles de Nicolas Sarkozy ne peuvent pas, non seulement, à commencer par Brice Hortefeux d'ailleurs, assister à venir à la nuit du Fouquet's, à la fête de l'élection, et qui ne peuvent pas non plus assister à la cérémonie d'investiture de Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Et il n'y a que Hortefeux qui est repêché in extremis par Nicolas Sarkozy, qui l'appelle au dernier moment. C'est aussi le cas de Pierre Charon, de quelques autres. Donc, grande influence. Et puis aussi, il y a l'épisode plus politique de l'épopée de la libération des infirmières bulgares en Libye. Mais ce qu'il faut savoir et comprendre, parce que moi je crois que l'état d'esprit personnel des hommes politiques, je crois beaucoup au côté personnel dans la politique, on a un président malheureux qui a fait une campagne électorale en étant malheureux et qui a vécu ses premières semaines de présidence en étant malheureux. Et d'ailleurs, le 14 juillet, il dit à quelques journalistes, il nous dit, à quelques-uns d'entre nous, mon seul souci, parce qu'il dit tout, en fait, encore à cette époque-là, du moins, mon seul souci, c'est Laetitia, Cécilia, je pensais encore à Johnny Hallyday. Cécilia, c'était pour voir si tout le monde suivait. Parce qu'à l'époque, il est en plein état de grâce, tout va bien pour lui. Et il dit, alors bon, je ne vais pas faire la promotion d'un autre livre, je crois qu'elle sera là la semaine prochaine, elle en parlera beaucoup mieux que moi, mais je sais qu'il dit à l'un de ses amis proches, cité par Catherine Ney, donc, qu'elle lui a gâché le plus beau jour de sa vie. Quoi. Ça a été je crois que la citation, ça a été la pire journée de ma vie, son élection en 2007. Et sans avoir eu moi-même cette confidence, je dis que ça, elle lui a gâché le plus beau jour de sa vie. Donc,
alors, puisqu'on est en train de parler,
la réélection n'en sera que plus délicieuse.
Alors, bon, puisqu'on parle de Cécilia, je pense qu'on peut évidemment évoquer la métamorphose qui consiste pour lui à divorcer, puis à se remarier pendant son mandat, ce qui était assez inédit là aussi, tout comme sera d'ailleurs la naissance d'un enfant à l'Élysée quelques temps plus tard. Mais alors là, la métamorphose. Passer de Cécilia Sarkozy à Carla Bruni, il y a là un changement total qui de personnalité, et puis surtout le changement qui s'inscrit dans le mode de vie du président. Le président qui aimait sortir, paraître, devient plus casanier, se met à passer des soirées à l'Élysée, la métamorphose est importante. Et si on s'attache au côté personnel, on peut considérer que Carla Bruni donc a joué un grand rôle dans le quinquennat.
Oui, elle a une influence. Alors, elle n'a pas d'influence, et elle ne cherche pas, je crois, à en avoir, d'influence politique. Hormis peut-être un petit coup de pouce sur la nomination de Frédéric Mitterrand ou de Philippe Val à France Inter, elle a eu très peu, à ma connaissance, très peu d'influence. En revanche, elle a beaucoup influé sur le comportement personnel de Nicolas Sarkozy, en ce sens qu'elle l'a un peu canalisé, calmé, et qu'elle lui a donné, disons, ce vernis culturel qui lui manquait et qui sied quand même au président d'un pays qui se veut héritier d'une grande culture. Bon, on sait que Nicolas Sarkozy avant...
Est-ce qu'il a eu le temps de lire Guerre et Paix en entier ou pas?
Alors, parce que, quand il était président, oui, ça tu fais allusion au fait quand il revient de Libye. Ça, c'est Bernard-Henri Lévy, je crois, qu'il le raconte. Quand il revient de Libye, de sa visite assez courte mais triomphale à Benghazi, là, il y a 6 mois, il a Guerre et Paix bien en évidence sur la tablette de son avion. Alors, est-ce qu'il a le temps de lire tout Guerre et Paix? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui ne fait jamais les choses à moitié, vous le savez. Et donc, elle entreprend de lui faire voir tout le cinéma italien, tout Bergman, tout un tas de cinéastes un peu difficiles qu'il ne connaissait pas, et de lui faire lire quelques des grands auteurs de la littérature française. Notamment, Proust, enfin Flaubert, Zola. Alors je ne sais pas s'il a tout lu, mais en tout cas il a ingurgité un certain nombre d'ouvrages classiques qu'il avait plus ou moins dédaigné jusqu'à présent. C'est quelqu'un, disons, il se revendiquait comme tel, d'ailleurs c'était plutôt sympathique, de culture populaire. Il s'était décrit lui-même comme un gros populaire avant 2007. Donc la chanson française, la chanson de variété, les films basiques.
Alors il dit, pardon, je t'interromps, mais il dit oui, voilà, oui, il dit je retrouve le passage. Oui, alors avec Carla, on regarde au moins 150 films par an sur notre home cinéma. Je vais parfois chez Virgin, j'achète, je suis un peu compulsif, je crois que j'ai vu tous les Hitchcock. Le meilleur, c'est La Corde. Mais ce nouveau cinéphile a vu aussi les films italiens, ceux des années 70, les grands classiques, Le Théorème de Pasolini, Le Guépard, Mort à Venise, Voyage en Italie. Et dit Sarkozy, en plus, ça se termine bien. Voilà. Casablanca lui a rappelé la route de Madison. Il a lu. Il s'est plongé dans les Rougon-Macquart, enfin les Rougeon-Macquart, mais.
Ouais,
les,
à un moment, quelquefois, il se trompe.
Les Rougon-Macquart, et puis, bon, etc. Et donc il a. Voilà. Voilà. Mais en fait, assez
ça,
assez
c'est une confidence qui nous fait au. Alors, c'était des sortes de vœux, parce qu'il a. Bon, on viendra à ses relations avec la presse, si vous voulez, mais il y a des rapports un peu difficiles avec la presse, vous savez. Et il y avait, c'était pas vraiment, il a fait des vœux, les premiers vœux à la presse, c'était cette année. Mais il y a eu quand même une sorte de cérémonie, je crois que c'était l'année dernière, donc en 2011. Et en marge des vœux, sur le ton de la confidence, il a fait ce grand numéro à quelques-uns. Bon, il n'y a pas de raison de mettre en doute ce qu'il raconte, mais il ne faut pas être dupe que c'est aussi une volonté de montrer qu'il a changé et que c'est un nouveau personnage.
Alors il y a un aspect évidemment important, ça fait l'objet d'un chapitre, c'est l'enfant et le père. C'est-à-dire que, en fait, la métamorphose que beaucoup d'observateurs ont relevé, c'est que au début de son septennat et lors de son accession au pouvoir, il a un côté, comment dirais-je, enfant gâté de la politique, un côté fonceur, il n'a pas de doute, il se permet tout comme se permettrait un adolescent pas toujours très bien élevé. Ouais. Et puis au fur et à mesure, donc les épreuves, l'âge, les conseils, finalement il commence à comprendre que ce comportement, peut-être il doit le faire évoluer. Et alors est-ce qu'il termine pour autant en père de la nation comme les Français aimeraient peut-être qu'il soit, c'est-à-dire ou peut-être la façon dont ils rêvent leur président d'une façon générale. Est-ce que la métamorphose, qui est indéniable, va jusqu'au bout? Voilà, c'est peut-être la question qu'on peut poser. Est-ce que vraiment Sarkozy est le sale gosse au départ, et est-ce qu'il est vraiment le père de la nation à l'arrivée, ou est-ce qu'il n'est ni tout à fait l'un au départ, ni tout à fait l'autre à l'arrivée?
Oui, c'est un petit peu ça. Il faut jamais, rien n'est jamais tout noir ni tout blanc. Mais ce qui est vrai, c'est que Nicolas Sarkozy voulait, quand il parlait de la rupture, c'était pas seulement la rupture politique, c'était la rupture dans le comportement. Il voulait une nouvelle manière d'être président. Il nous le disait tout le temps, il ne voulait pas être le président hiératique comme l'avait été juste avant lui Jacques Chirac et François Mitterrand, qui en plus ne faisait rien, qui étaient les rois fainéants, parce que bon, avec lui tout a commencé avec le jour de son élection. Un jour il a même dit que bon, il en avait plus fait que le général de Gaulle. Bon, donc il veut une présidence active, hyper active en l'occurrence, mais avec un président qui est plus, oui, grand frère, je l'ai dit au début, copain, plutôt que le père de la nation. Et puis il va un petit peu évoluer. On a vu quand même la semaine dernière le résultat de cette métamorphose. Il a été cette fameuse semaine dramatique à la suite des événements de Montauban et de Toulouse. Je crois que, est-ce qu'il se serait comporté exactement de la même façon dans les premiers mois de son quinquennat, c'est difficile à dire. En tout cas, il a parfaitement, à mon avis, assumé son rôle et assumé la fonction. Avec toujours, moi c'est ce que j'ai trouvé en le regardant, toujours à la limite, on se demande toujours un moment s'il ne va pas trop en faire ou trop en dire. Là on sort un peu de mon livre, on est dans l'actualité, c'est ce qu'il dit aux enfants le jour là, pendant la minute de silence. C'était très bien de faire cette cérémonie au milieu des enfants, mais après il leur dit c'est vous qui auriez pu être à la place de ces enfants, c'est vous qui auriez pu être mitraillé. Bon, donc toujours ce côté un peu anxiogène qui traîne derrière lui, et donc on voit bien que je trouve que c'est une séquence qui résume assez bien l'évolution du personnage, c'est-à-dire une évolution réelle, mais toujours un peu, j'aime pas les expressions anglaises, mais borderline, toujours à la limite de la rechute, si on peut dire.
Par exemple, on peut imaginer qu'arrivant sur le port du Guilvinec aujourd'hui, il ne s'adresserait pas à un patron pêcheur qui l'insulte en lui disant « descends, me le dire en face ».
Non, voilà, il ne le dirait plus. Enfin, je pense, hein, on ne sait jamais, parce qu'il est un peu sanguin quand même. Il éviterait de dire le fameux casse-toi pauvre con, bon, qui lui a aussi coûté très cher, hein, qui le poursuit encore. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi le premier président de l'ère des téléphones portables, des caméras, du tout filmé, et que donc il faut être tout le temps sur ses gardes et tout le temps sous contrôle. Bon, cela dit, on peut imaginer que ses prédécesseurs, même sans être filmés, se seraient retenus. En tout cas, je pense que maintenant, il fait en effet très attention à tout ça. Il s'en est expliqué déjà l'autre jour à la télévision encore. Et il s'en est expliqué d'ailleurs peu de temps après. On l'a oublié. 3 semaines après, dans Le Parisien, il dit « j'aurais pas dû dire ça, je regrette ». Il a toujours joué le jeu de la, pour reprendre un mot qu'il n'aime pas, de la repentance, enfin de l'excuse, en tout cas assez vite formulée quand même. Mais donc je pense qu'en effet, il n'aurait plus ce comportement, il se surveille beaucoup plus. Par exemple, vous vous souvenez de cette agression qui a eu lieu l'année dernière, fin juin, dans un village du Lot-et-Garonne. Bon, il est resté beaucoup plus calme.
Enfin, peut-être serait-il intéressant de connaître l'avis d'un de ses concurrents politiques, François Bayrou, qui dans un livre paru au début du septennat avait parlé de lui comme d'un enfant barbare. Oui. Hein, il avait été loin, comme c'est une expression qui était quand même très 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 forte. J'ai l'impression que Bayrou ne dirait plus une chose pareille aujourd'hui, même si peut-être qu'il y a des confidences dans ce sens. Je ne sais pas.
Moi, ce qui m'a frappé en recueillant quelques témoignages et surtout en consultant, là, parce que j'ai consulté une grosse documentation, c'est que le terme d'enfant qui revenait souvent à son propos, en tout cas pour les débuts du quinquennat, c'est Yasmina Reza qui a écrit un livre sur sa campagne de 2007. Elle raconte dans son livre « La première impression que j'ai en le voyant, c'est celle d'un enfant ». François Bayrou, pour ses premiers vœux, en janvier 2008, il résume assez bien les choses. Il cite l'Ecclésiaste, il dit « Malheur à la ville dont le prince est un enfant ». Et puis, 2 ans plus tard, il écrit cet ouvrage dont tu parles, où il traite Nicolas Sarkozy d'enfant barbare. C'est quelque chose qui revient souvent dans les témoignages des psychiatres, parce qu'il faut savoir aussi quand même que jamais un président de la République n'a autant intéressé les psychiatres. Moi, ça m'a frappé dans toute ma documentation.
Même Mitterrand.
Oui, je crois. Il y a eu le journal Le Point a fait un numéro entier au milieu du quinquennat sur Sarko et les psys, avec des témoignages d'ailleurs intéressants de 5 ou 6 psys. Marianne, un jour, fait un numéro sur le thème « Sarkozy est-il fou ?». Enfin bon, il y a quand même une interrogation, c'est d'ailleurs des titres des Unes terribles. Hein. Il y a toujours eu cette interrogation sur son sujet, et c'est un sujet en effet de grand intérêt pour les psys, parce que il y a de toute évidence, chez Nicolas Sarkozy, un problème de rapport avec le père. Mais quand on regarde, d'ailleurs, c'est très fréquent chez les candidats, en tout cas les principaux candidats à l'élection présidentielle. Je crois que pour être candidat à la présidentielle, avec des chances d'être élu, il faut avoir eu un problème avec son père, parce que bon, François Hollande, je suis en train de lire une biographie de lui aussi, il a eu beaucoup de difficultés, il avait un père très particulier, c'était aussi le cas de Ségolène Royal.
De Jean-Luc Mélenchon aussi,
oui, ça je sais moins. Mais en tout cas, Nicolas Sarkozy a eu un père absent, contre lequel ensuite il s'est révolté, il a même à un moment voulu lui faire un procès, un père un peu fantasque, coureur, enfin vous le connaissez, qui n'était pas à la maison, qui ne s'occupait pas de ses enfants. Et il n'a eu de cesse il a eu aussi des problèmes, enfin il a eu toujours besoin de s'affirmer par rapport à ses frères, parce qu'il était plus jeune que l'un, il est le cadet, plus jeune que l'un d'eux, mais plus petit en taille, et ça c'est quelque chose qu'il a toujours beaucoup marqué. Donc besoin d'affirmation vis-à-vis des autres, et une certaine recherche du père, et ce père il l'a toujours cherché en politique, avec... Au début, c'était Charles Pasqua, ensuite Jacques Chirac. On s'aperçoit d'ailleurs qu'il a souvent tué le père.
Et surtout Balladur.
Et à la fin, Édouard Balladur. Alors lui, il ne l'a pas tué, il l'a plutôt chercher à le venger. D'ailleurs, il lui dit un jour, je vous vengerai en me faisant élire. Et là, il a tenu promesse. Et il lui dit souvent, à Édouard Balladur, vous êtes mon vrai père. Et un jour, il lui téléphone régulièrement, même pour la fête des pères. Et Balladur, qui a 4 fils, lui dit, parce qu'il a un peu d'humour, un peu de distance, il dit, vous êtes bien le seul des fils qui me souhaite la fête des pères. Voilà, donc ça c'est Nicolas Sarkozy, toujours ce problème avec les pères, et ça explique sans doute, moi je ne suis pas psychiatre, mais ça explique sans doute sa difficulté à jouer le père de la nation, parce que quand on a un problème avec son père, on a plus de mal à jouer le père des autres.
Alors des métamorphoses de Sarkozy, il y en a beaucoup. Alors peut-être on peut parler d'une métamorphose politique et la métamorphose non pas du personnage, mais peut-être de la façon dont il a exercé le pouvoir. Est-ce qu'on peut vraiment repérer une vraie métamorphose, c'est-à-dire qu'on lui a suffisamment reproché de vouloir être le maire du palais, de vouloir s'occuper de d'absolument tous les sujets, de faire le travail des ministres à la place des ministres, de les traiter d'incapables en ne leur laissant aucune initiative ou peu s'en faut. Alors est-ce que de ce point de vue, est-ce qu'on peut repérer quand même un changement à ce niveau-là? On sent que oui, mais enfin, est-ce que vraiment le Sarkozy de 2012 était quelqu'un qui a authentiquement compris que un président doit se concentrer sur quelques grands sujets et laisser son premier ministre gouverner et ses ministres, ou bien est-ce qu'il continue à penser qu'il est obligé de s'occuper de tout? Je crois qu'il y a toujours souvent dans les échos des phrases à la sortie du Conseil des ministres, où Sarkozy, si je faisais pas tout moi-même, rien ne se ferait, quel incapable, etc.
Alors, c'est l'autre grand changement dans la présidence. En effet, il devient un peu moins hyper-président. Là, on peut assez clairement dater la rupture. C'est sans doute novembre 2010, quand François Fillon est reconduit après une très très longue réflexion de Nicolas Sarkozy.
Ça dure 6 mois.
Oui, ça dure 6 mois, un feuilleton interminable et qui contribue un peu au discrédit politique de Nicolas Sarkozy, à mon avis. Donc après cette longue réflexion, après avoir envisagé de nommer Borloo, il se résout à reconduire Fillon. En fait, sous la pression, ça aussi c'est une première, des députés UMP qui veulent garder Fillon, qui ne veulent pas de Borloo dans leur majorité, qui aiment Fillon. Et là, Fillon va prendre un peu plus d'importance, un peu plus de pouvoir. Et on a vu l'an dernier, notamment, que c'est lui... alors évidemment, c'était les mauvaises nouvelles, mais que c'est lui quand même qui a présenté les 2 plans de rigueur, enfin les 2 mini-plans de rigueur successifs qui ont été présentés après la crise financière et monétaire de l'été 2011. Au début, en revanche, on sait que le Premier ministre est totalement inexistant. Les ministres également. Les ministres sont là pour le casting, pour le décorum. Il y a la beurette, la noire, le médecin sans frontières, le socialiste. Voilà. Et Nicolas Sarkozy fait son casting. Les vrais ministres se trouvent à l'Élysée. Ce sont des super conseillers. Le vrai ministre de l'Intérieur, le vrai Premier ministre, en fait, c'est Claude Guéant, qui était à l'époque secrétaire général de l'Élysée. Le vrai ministre des Affaires étrangères, c'est Jean-David Lévite, son conseiller diplomatique. Le vrai ministre de la Justice, c'est Patrick Houard, son conseiller justice. On pourrait décliner comme ça la liste encore assez longtemps. Et tout se passe, tout se décide à l'Élysée, ce qui peut d'ailleurs expliquer certains dysfonctionnements, parce que malgré tout, la commande de la machine gouvernementale, même si la décision est prise à l'Élysée, hors cohabitation, la commande de la machine gouvernementale, elle se fait quand même à Matignon. Le secrétariat général du gouvernement, celui qui impulse et fait appliquer les décisions, il est à Matignon. Et donc, ça peut expliquer certaines distorsions, certains malentendus du début du quinquennat.
Donc, ça peut expliquer aussi les mal de dos récurrents de François Fillon.
François Fillon, alors ça, on y reviendra, c'était peut-être psychosomatique, mais en effet, c'est un Premier ministre qui en a plein le dos dans tous les sens du terme. Et là aussi, les relations entre François Fillon et Nicolas Sarkozy sont totalement inverses de ce qu'ont été les relations habituelles entre un président et un Premier ministre sous la Ve République. J'ai écrit, tu l'as rappelé, un livre sur Matignon. En général, je ne parle pas des cohabitations, mais je parle des relations classiques, du schéma classique. En général, Il y a une sorte de lune de miel au début, et puis petit à petit, les choses se dégradent, et le Premier ministre claque la porte, comme Chirac avec Giscard en 1976, ou est congédié comme Rocard avec Mitterrand en 1991, ou bien, comme si on remonte plus loin, comme Chaban avec Pompidou en 1972. Là, c'est le contraire. Les relations ont été de mieux en mieux. Ont été très mauvaises au début, n'ont cessé de s'améliorer. François Fillon a failli, il s'en est fallu de peu pour qu'il démissionne à l'automne 2007. Vous vous souvenez sans doute de cette scène, de ce voyage de François Fillon en Corse où il dit « je suis à la tête d'un État en faillite ». Alors, ce qui choque à l'époque, ce qu'on a retenu à l'époque, c'est le mot de faillite. Mais ce qui choque Nicolas Sarkozy, c'est que François Fillon dit « je suis à la tête d'un État ». Parce que le chef de l'État, évidemment, c'est lui. Et donc, il y a une scène terrible avec quelques témoins qui m'ont raconté, où Nicolas Sarkozy arrive et dans une sorte de colère froide et en regardant le bout de ses chaussures dit « cette situation ne peut plus durer, je n'ai plus la phrase exacte, mais l'un de nous deux est de trop ici, il ne peut pas y avoir deux têtes, deux chefs à la tête d'un État ». Et François Fillon se démonte pas, il dit « tu as ma démission », parce que tout le monde tutoie le président de la République, « tu as ma lettre de démission sur la table, tu la signes quand tu veux ». Et là, Nicolas Sarkozy, ça, c'est très intéressant d'ailleurs de voir comment il fonctionne, parce que dès qu'on introduit un rapport de force avec lui, tout de suite, il est un peu sur le recul, et Nicolas Sarkozy dit « non, bon, c'est bien, n'en parlons plus ». Donc des relations très difficiles, c'est l'époque où Nicolas Sarkozy traite François Fillon, vous en souvenez sans doute, de collaborateur. Il nous dit, et c'est d'ailleurs nous qui avions sorti la fameuse phrase dans Sud-Ouest, il dit « le patron c'est moi, le Premier ministre c'est un collaborateur » et François Fillon l'a très mal pris à l'époque. Donc une période très délicate et puis les choses vont aller en s'améliorant cas un cas. D'abord, Nicolas Sarkozy, François Fillon devient plus populaire que Nicolas Sarkozy, ce qui est en fait un désaveu terrible pour lui, parce que ça montre que c'est moins sa politique que sa personne qui sont rejetées. Et ça rend l'éviction de Fillon beaucoup plus difficile, pour peu que Sarkozy le souhaite. Donc les relations vont s'améliorer petit à petit, et jusqu'à ce que finalement François Fillon soit reconduit, à l'automne 2010, au point qu'on va parler non plus d'un hyper-président, mais d'un hyper-premier ministre. Bon, c'est allé un peu vite en besogne. Mais on voit que Fillon est plus à la manœuvre, il a plus d'influence, il est aussi plus entendu. Il a toujours plaidé pour une politique de rigueur, de désendettement, dont ne voulait pas entendre parler Nicolas Sarkozy. On pourra y revenir si vous voulez, parce que les débuts du quinquennat ont été particuliers. Fillon obtient satisfaction, donc il est plus en phase avec la politique qui est menée. Et on peut transposer aussi ce raisonnement avec les ministres. Mais enfin, je veux pas être trop long. Les conseillers de l'Élysée, je vous ai dit, ils ont changé entre 2007 et 2012. Et en changeant, ils ont perdu de l'importance. Ce sont des personnalités qui ont moins de poids. En revanche, les ministres, eux, ceux qui étaient là pour le casting, qui n'avaient pas beaucoup de poids politique ou dans leur administration, sont partis. Et puis, on a recruté des poids lourds, au premier rang desquels Alain Juppé. Donc, le rapport, on est revenu, disons, à une conception plus classique de la Ve République, avec un Premier ministre un peu plus présent et des ministres qui ont un peu plus de pouvoir qu'ils n'en avaient, et les conseillers un peu remis à leur place. Voilà.
Alors, on, peut-être encore un mot sur les ministres. On parlait de la métamorphose de la photo du gouvernement de 2007 et la photo qu'on peut voir aujourd'hui. Donc, toutes les têtes ont changé. Il y a notamment quelque chose, ceux qui en particulier ont disparu. Ce sont ce qu'on appelait ces prises de guerre, c'est-à-dire ces personnalités venues de la gauche qui devaient élargir un peu le l'éventail politique du gouvernement, montrer que la gauche était battue et qu'elle devait le suivre. suivre, une partie au moins une partie d'entre elles, le suivre dans sa politique. Ces gens-là ont disparu. Donc on pense à Kouchner.
Kouchner étant le plus emblématique. Plus emblématique. Oui, Bockel,
Besson est resté, mais il a changé de.
Besson, c'est différent. Il a été recyclé.
Voilà, il a été recyclé. Mais quand on dit ça à Sarkozy, il fait quand même remarquer que cette ouverture qui n'est peut-être plus visible au gouvernement, elle est quand même réelle dans le sens où il dit je suis le premier qui a nommé un socialiste à la commission des finances de l'Assemblée, je suis le premier qui a nommé un socialiste donc un adversaire politique à la Cour des comptes, etc. Donc au fond
il est constitutionnel.
Est-ce qu'il est fondé à dire qu'au fond l'ouverture il a continué à la faire même d'une autre manière,
et ça a été c'est quelque chose à laquelle il a toujours tenu. C'est d'ailleurs un discours qui tient à nouveau dans cette campagne depuis quelque temps, mais qui a profondément heurté la majorité. Il faut se mettre à la place des députés ou de la majorité, des députés UMP, dont certains sont là depuis longtemps, ont accompagné Nicolas Sarkozy dans son ascension. Ils rêvaient d'être ministres, et puis là-dessus, ils retrouvent leurs adversaires politiques, ministres, à leur place.
C'est Devedjian qui avait dit...
Ça énerve. C'est le mot de Devedjian qui est terrible, et qui là aussi... Alors c'est l'équivalent du Fouquet's en politique, finalement. Ça marque le début du quinquennat. C'est des mots qui restent quand il dit « il faut que l'ouverture aille jusqu'aux sarkozistes ». Et c'est vrai, parce que Devedjian comprend qu'il ne va pas être ministre, qu'il ne va pas être ministre de la justice, comme il en rêvait. Il en rêvait tellement que par superstition, il refusait pendant la campagne de 2007 de passer place Vendôme, alors que c'était son chemin entre le QG de Sarkozy et l'Assemblée. Il prenait un autre chemin par superstition et il ne sera pas ministre de la justice. Ce sera, vous savez, Rachida Dati. Donc il y en a beaucoup qui en ont gros sur le cœur, donc beaucoup de frustration, beaucoup de rancœur, y compris dans ses propres amis politiques. Brice Hortefeux qui rêvait d'être à l'intérieur, et il finira par y arriver, mais se retrouve au ministère de l'immigration, créé à l'époque de l'immigration et de l'identité nationale, qui a été supprimé depuis, mais c'est pas ce dont ce qu'il souhaitait. Enfin, donc, ses amis, c'est peut-être à l'honneur de Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, on n'est pas là pour récompenser forcément ses amis. En tout cas, il crée quand même beaucoup de frustration, de rancœur dans son camp. Ça s'exprime un petit peu en 2007, mais ça va littéralement exploser en 2010, après les élections régionales, qui, vous vous en souvenez sans doute, sont un véritable désastre, une bérésina pour la majorité, puisque la majorité sortante n'avait que deux régions, elle a réussi à en perdre encore une, et n'a plus qu'une seule région, et avec une UMP très, très basse. Donc là, c'est la fronde au groupe UMP contre l'ouverture, surtout que viennent d'être nommés, peu de temps avant, en effet, Didier Migaud à la Cour des comptes, Jérôme Cahuzac à la place de Didier Migaud à la présidence de la Commission des finances et Michel Charras, on l'a oublié, au Conseil constitutionnel. Donc ça, c'est trois, ce ne sont plus des ministres, mais ce sont trois nominations qui passent très mal à l'UMP. Et du coup, Nicolas Sarkozy, depuis, ce seront les dernières à gauche. Et n'en fera plus pendant le reste du quinquennat.
Alors j'ai quand même une question sur Alain Juppé, parce que on est à Bordeaux, mais puis c'est quand même aujourd'hui peut-être le poids lourd du gouvernement avec Premier ministre. On sait qu'au début du septennat de Sarkozy, Juppé est très à l'écart. Aujourd'hui, il fait partie il est vraiment au cœur du dispositif. Oui. Donc il a accepté de rejoindre le gouvernement à un moment où d'ailleurs on disait certains de ses amis lui disaient tu rejoins le Titanic. Donc, qu'est-ce que tu fabriques ? Enfin bon, est-ce que c'est vraiment le moment ? Et alors, comment il fallait interpréter le retour de Juppé ? Est-ce que Juppé est revenu parce que Sarkozy était en train d'accomplir une métamorphose qui lui plaisait ? Ou est-ce que c'est aussi le retour de Juppé qui a permis à Sarkozy de faire sa mue ? Qu'est-ce qu'il emporte là ?
Un peu les deux. Moi, je dirais que le retour d'Alain Juppé au gouvernement, et le poids qu'il prend, c'est le symbole vivant de la métamorphose politique de Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire, c'est le retour aux fondamentaux. Le retour d'abord des Chiraciens, pour résumer, au détriment et la fin de l'ouverture politique, le retour des poids lourds, des professionnels de la politique. Donc le rassemblement de son camp, de l'UMP, et puis surtout le retour à une conception plus, euh, plus classique que du gouvernement, parce qu'il est évident qu'Alain Juppé, d'abord, bon, il est d'abord à la Défense, puis aux Affaires étrangères. Il ne va pas se contenter d'être l'exécutant ou le figurant de la politique étrangère derrière le conseiller diplomatique, comme l'était un peu Bernard Kouchner. Donc on revient là à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire une conception beaucoup plus classique des ministres qui ont du poids et de l'importance. Et Nicolas Sarkozy est content, c'est assez fascinant de voir...
Mais ça, il l'a voulu, donc Sarkozy l'a voulu, ça.
Oui, les deux l'ont voulu. Alors il y a eu un petit jeu de grandes coquettes pendant 3-4 ans entre les deux. L'un ne voulait pas demander vraiment à revenir au gouvernement, mais l'autre ne voulait pas demander à l'autre de revenir, mais ils avaient quand même tous les deux envie que d'y être ou qu'il y soit. Ça a failli se faire en 2009, mais Juppé n'a pas eu le grand ministère d'éducation dont il rêvait. Donc après, il a fallu attendre encore. Enfin bon, il y a eu un petit jeu du chat et de la souris qui a duré assez longtemps et qui a fini par se déboucher sur le remaniement de 2010, ou de novembre 2010, où Juppé revient. Mais ce qui est frappant surtout, c'est d'entendre, c'est l'évolution des propos de l'un sur l'autre, parce que Juppé n'est pas Nicolas Sarkozy n'est pas avare de mots cruels sur Alain Juppé, et la réciproque est vraie. Et il n'y avait pas pire, c'est une époque où il avait un peu plus de temps, donc je le voyais tout de même assez régulièrement dans des déjeuners à Paris pour ce qui me concerne. Il n'y avait pas pire contempteur de Nicolas Sarkozy qu'Alain Juppé, quoi. Il passait au crible tout en reconnaissant certains mérites, hein, certains aspects positifs à sa politique, mais il passait quand même au crible la politique de Nicolas Sarkozy, pointait toutes ses erreurs, il racontait qu'il se promenait dans Bordeaux, qu'il rencontrait beaucoup de gens qui avaient voté Sarkozy, qui ne voulaient plus recommencer, et que ce qui l'ennuyait, c'est qu'il ne voyait pas le contraire. Enfin bon, donc à nouveau, nouvelle rencontre avec lui septembre dernier. C'était difficile de trouver quelqu'un de plus sarkoziste qu'Alain Juppé. Il tarissait pas d'éloges sur Nicolas Sarkozy, tout en étant assez lucide toujours sur le personnage, parce qu'il met toujours quand même un peu de distance dans ses jugements. Je crois qu'il était de bonne foi dans les deux. Je pense dans les deux cas. Je pense que Alain Juppé a été. Les deux hommes ne s'aiment pas. Hein, c'est pas la peine de tourner autour du pot. Mais ils ont une certaine estime pour l'un pour l'autre parce qu'ils se complètent. Ils ont les qualités et les défauts que l'autre n'a pas. Et Alain Juppé est réellement bluffé, en tout cas il nous l'a dit, de voir comment est Nicolas Sarkozy dans les sommets internationaux, la façon dont il réussit à convaincre, à travailler au corps Obama ou les autres et à les faire changer d'avis. Et Nicolas Sarkozy, inversement, est plutôt content de s'appuyer sur un personnage solide qui connaît bien la maison, et qui tient bien le Quai d'Orsay, avec lequel le président actuel avait eu pas mal de déboires pendant les premières années du quinquennat. Donc il y a une espèce de redécouverte mutuelle entre les deux hommes, parce qu'ils se connaissent quand même depuis 20 ans, hein, avec beaucoup de hauts et de bas, beaucoup de mots cruels, ils se sont souvent affrontés, mais jamais totalement séparés quand même. Là, il y a une espèce de redécouverte mutuelle, entre les deux, qui est, à mon avis, un effet marquant et fascinant de ce quinquennat.
Mais puisqu'on parle d'Alain Juppé et de la politique étrangère, on peut en dire un mot, parce que ça c'est vraiment un domaine sur lequel il y a eu une métamorphose étonnante. C'est que Sarkozy est revenu là aussi aux fondamentaux du lien entre la France et l'Allemagne. Tout le monde connaît Merkozy, les sommets entre Angela Merkel et Nicolas Sarkozy à répétition, le rôle qu'ils jouent ensemble dans le traitement de la crise de l'euro et de la crise de l'Europe, alors qu'il faut se souvenir qu'au début du quinquennat de Nicolas Sarkozy, il explique partout que le lien avec l'Allemagne c'est pas le tout d'une politique, qu'on peut faire des choses très sérieuses avec les Anglais, que d'ailleurs avec les Anglais c'est mieux, c'est plus facile, on se comprend mieux, et puis d'ailleurs on va rentrer dans l'OTAN, et puis on va diversifier nos relations, etc. Et ça se passe pas très très bien avec les Allemands départ, et au fur et à mesure, alors est-ce que c'est l'influence de Juppé, est-ce que c'est l'influence des réalités, que se passe-t-il? En tout cas, on voit bien là une inflexion continue et un retour aux fondamentaux de la politique étrangère de Chirac, de Mitterrand.
Oui, il y a deux personnages qui symbolisent, par les relations qu'ils ont eues avec lui, l'évolution de Nicolas Sarkozy pendant ce quinquennat. C'est Alain Juppé, on en a parlé, et c'est Angela Merkel, parce qu'en effet, et à travers Angela Merkel, l'Allemagne. Bon, tu l'as très bien rappelé, en 2007, Nicolas Sarkozy fait une campagne qui est quasiment anti-allemande. Il tient un meeting à Nice, je crois, il y a juste un an, le 30 mars 2007, dans lequel c'est tout juste, il ne traite pas tout le peuple allemand de complice des nazis. Enfin, il se demande comment ces gens-là ont pu laisser faire à leur porte les camps d'extermination, etc. Et il explique que l'Allemagne, en effet, ça va, mais maintenant on va construire un axe Londres-Paris-Madrid et que l'Allemagne ne doit pas primer tout. Et puis petit à petit, là encore, les réalités l'emportent peu à peu et il se rend compte que pour faire avancer l'Europe, il faut une relation privilégiée avec l'Allemagne. Et à travers la crise financière d'abord, puis la crise monétaire de l'été dernier, les relations vont se renforcer jusqu'au point, là encore, il ne fait jamais les choses à moitié, jusqu'au point d'arriver à l'autre extrême et où Nicolas Sarkozy nous présente maintenant l'Allemagne comme le modèle qu'il faut imiter par-dessus tout et songe à inviter Angela Merkel dans un meeting de campagne. D'ailleurs,
il a changé d'avis, d'ailleurs.
On y reviendra, si vous voulez, mais il n'en est plus tellement question. Enfin, elle va lui apporter son soutien d'une manière ou d'une autre. Avec Angela Merkel, là aussi, c'est une espèce de découverte mutuelle. Les relations sont très mauvaises, très difficiles au début. Nicolas Sarkozy l'appelle Mamie Nova, en privé. Hein. Et Angela Merkel, Louis de Funès, son mari, son compagnon, enfin que Nicolas Sarkozy d'ailleurs appelle tout le temps Monsieur Merkel, une fois lors d'une remise de prix, alors qu'ils ne sont pas mariés, enfin peu importe. Et donc ce compagnon, Monsieur Merkel, donc offre à Angela un jour des cassettes de Louis de Funès en lui disant voilà, comme ça tu vas comprendre comment fonctionne Sarkozy. Voilà, donc c'est pour vous dire l'ambiance enfin, qui règne au début. C'est très difficile pendant la crise financière. Donc celle de la crise des banques de l'automne 2008. Et là, il faut bien dire qu'ils sont totalement dissemblables, parce que Nicolas Sarkozy est quelqu'un, vous le savez, de très réactif, et Angela Merkel est quelqu'un, moi je ne la connais pas hein, personnellement, mais apparemment d'assez longue à la détente. Et c'est d'ailleurs son adversaire socialiste qui l'a dit récemment dans une interview.
Il lui arrive de dire, ça c'est notre correspondant en Allemagne, il lui arrive de dire je n'aime pas prendre des décisions, je ne prends des décisions que quand j'y suis obligé.
Voilà, c'est
donc,
ça.
Et elle sent, je ne dis pas qu'elle s'en vante, mais elle considère qu'au fond, un responsable politique n'a pas à forcer la décision, mais à prendre les décisions au moment où elles finissent par s'imposer. Et alors, il n'y a rien de plus étranger à Sarkozy, je pense.
Voilà, exactement. Et pendant la crise financière de 2008, là, qui est, bon, c'est son grand fait d'armes, à mon avis, elle est très lente à réagir. Elle ne réagira que quand une banque allemande sera à son tour touchée. Mais pour parer au plus pressé, ce sont Nicolas Sarkozy et Gordon Brown, qui est encore Premier ministre en Angleterre, qui vont prendre les choses en main pour renflouer le système bancaire. Donc, et on voit bien l'évolution avec la crise de 2011, où là, c'est Nicolas Sarkozy et Angela Merkel qui décident ensemble, alors c'est pas toujours facile, de prendre les mesures qui s'imposent, alors souvent avec un peu de retard d'ailleurs, du fait souvent d'Angela Merkel, les mesures qui s'imposent pour lutter contre la crise des dettes souveraines et pour éviter la faillite de la Grèce. Donc ce sont des personnages très différents qui vont peu à peu se découvrir. Moi, je dis qu'on pourrait, là, parce que c'est difficile de dater les tournants, mais on pourrait dater le tournant du printemps 2009, les premiers G20, les G20 dont Nicolas Sarkozy est d'ailleurs à l'origine, hein, du G20 de Londres. C'est le deuxième G20, en fait, mais celui qui est vraiment le processus en route, c'est en avril 2009. Où ils arrivent ensemble, tous les deux, à ce sommet, en ayant préparé une série de mesures communes qu'ils vont proposer à leur père à Obama et aux autres, dont ils vont réussir à faire adopter quelques-unes. C'est là qu'ils ont vraiment commencé à travailler ensemble, puis après il y aura un sommet à Deauville 6 mois plus tard. Enfin, ils se découvrent peu à peu, mais on ne peut pas faire plus de personnages plus dissemblables que les deux, mais malgré tout, aujourd'hui, vous voyez, ils sont dans une sorte de lune de miel, en tout cas électorale, à tel point que Nicolas Sarkozy explique toujours, c'est une de ses plaisanteries préférées, je passe plus de temps avec Angela qu'avec Carla.
Voilà. 7h20, je crois que, merci beaucoup, donc je rappelle.
Merci beaucoup, c'est moi.
Donc la métamorphose de Sarkozy par Bruno Dive aux éditions Jacob Duvernay. Voilà, je crois que l'auteur est à la disposition
de
ceux qui veulent.
Je suis prêt à vous le dédicacer.
Voilà, merci beaucoup.